Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Plus menaçant, mais aussi plus seul que jamais, Vladimir Poutine s'est invité à l'ONU sans y être, en brandissant à nouveau un éventuel recours à l'arme nucléaire. Réponse très ferme de Joe Biden. La Russie viole de manière éhontée les principes des Nations Unies et même la Chine prend ses distances, appelant désormais clairement à un cessez-le-feu. Le président américain à la tribune, solidaire aussi de ces femmes qui manifestent en Iran après le décès d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs et qui en a décédé ensuite. La mobilisation commence à dépasser les frontières. L'actualité, c'est encore le procès du chirurgien qui a tenté de mettre en vente la radiographie d'une rescapée du Bataclan. La pénurie d'étudiants en pharmacie, le rappel massif de lait infantile Candia, et puis le très réputé Thomas Joly, choisi pour mettre en scène la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, vous nous avez suivis déjà. On a fait un petit tour, un grand tour même de Los Angeles en cette journée sobriété. Vous avez entendu comment fonctionne cette ville qui, sans rien renier de son passé ouvrier minier, travaille depuis 30 ans à son autonomie énergétique. À vous d'interroger les habitants, d'interroger les élus. Vous avez forcément des questions. Et puis, on vous donnera aussi, comme on vient de le faire un peu brièvement, des nouvelles de notre empreinte carbone. Et tout ça, ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. L'hostilité du discours a donc fait réagir fortement aujourd'hui à la tribune de l'ONU à New York. Vladimir Poutine, qui cherche 300 000 hommes de plus pour aller se battre en Ukraine et qui brandit à nouveau la menace nucléaire, inacceptable pour le président américain Joe Biden.
Aujourd'hui, le président Poutine a de nouveau fait des menaces nucléaires contre l'Europe, sans aucune considération du régime de non-prolifération des armes atomiques. Aujourd'hui, la Russie fait appel à de nouveaux soldats pour rejoindre la lutte et le Kremlin est en train d'organiser un faux référendum pour tenter d'annexer une partie de l'Ukraine et véritablement une violation extrême de la Charte des Nations Unies. Le monde doit considérer ces actes outrageants comme ils sont. La Russie menace, mais personne ne peut menacer la Russie, et personne autre que la Russie n'a cherché ce conflit.
Et le président américain depuis New York, où vous vous trouvez ? Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Hélène.
Joe Biden qui attaque donc frontalement la Russie.
Oui, tout à fait. Le président américain a été très clair, vous l'avez entendu, hein, la guerre que la Russie mène en Ukraine n'est rien d'autre qu'une guerre d'agression pure, qui plus est, lancée par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation évidemment totale de la Charte des Nations Unies. Une tentative, a ajouté le président américain, une tentative de la Russie pour effacer de la carte un État souverain. Et Joe Biden a rappelé en fait les buts de guerre avoués de Vladimir Poutine, citant le discours de ce dernier publié en juillet 2021, donc avant le déclenchement de la guerre, discours dans lequel le président russe estimait tout simplement que l'Ukraine n'était qu'une création de la Russie et qu'elle n'avait jamais eu le statut d'État dans l'histoire. Et c'est bien à ceci que l'on assiste, a martelé le président américain, à une tentative pour effacer l'Ukraine en tant qu'État, en tant que peuple. Le président américain, vous l'avez entendu, a rappelé l'ordre de mobilisation, davantage de soldats, l'organisation par le Kremlin de référendums bidons, c'est le terme qu'il a employé, sham referendum, dans les territoires contrôlés par l'armée russe en Ukraine à des fins d'annexion. Et il a aussi évidemment conspué ces menaces ouvertes du maître du Kremlin d'employer l'arme atomique en Europe. Les États-Unis veulent aussi que cette guerre s'arrête, a poursuivi Joe Biden, mais on ne peut tout simplement pas prendre des territoires par la force. L'Ukraine, a conclu le président américain, a le droit à sa souveraineté.
Emmanuel Macron, lui aussi, a appelé à mettre une pression maximale sur la Russie. Merci Eric Biegala en direct de New York. La Chine appelle désormais à un cessez-le-feu, changement de ton d'un partenaire jusqu'ici plutôt conciliant, le président russe, qui en annonçant ce matin d'un ton martial la mobilisation de 300 000 hommes supplémentaires pour combattre en Ukraine sur le terrain, embourbé au point que les Ukrainiens ne semblent pas avoir été impressionnés par ces menaces. Rien qui n'entame en tout cas la détermination de ceux qu'a rencontré Boris Loumagne aujourd'hui dans les rues de Kharkiv, dans l'est du pays.
Dans les rues de Kharkiv, la contre-offensive victorieuse de ces dernières semaines a galvanisé le moral des Ukrainiens. Alors quand on leur parle de cette mobilisation partielle en Russie, beaucoup d'Ukrainiens bombent le torse, comme Anton, 34 ans.
Qu'ils viennent, ils resteront tous là. Les Russes, ils ont bien compris qu'en Ukraine, ce n'était pas un bon endroit pour venir traîner.
Les victoires ukrainiennes sur le front suscitent beaucoup de fierté ici. La certitude aussi qu'en face, les Russes ne sont pas assez préparés pour gagner cette guerre. Et ce, malgré cette mobilisation partielle, Sacha, un entrepreneur.
On vit depuis longtemps à côté de la Russie, on connaît bien les Russes, ils ne valent pas grand-chose. Ils sont démoralisés, ils ne veulent pas combattre. Ils n'ont pas de bons militaires, pas de motivation, pas de bon salaire. On le voit sur le front, ils sont habillés en guenilles.
Sa femme, Angelica, renchérit.
Bien sûr, on en a marre de cette situation. Tout le monde en a marre. En Ukraine comme en Russie. Mais nous, on se bat pour notre pays. Alors que les citoyens ordinaires en Russie, ils ne comprennent même pas pourquoi ils se battent.
Ici, à Kharkiv, les habitants vivent sous la menace quotidienne des bombardements. Mais ils tiennent bon, en partie grâce à ce très fort sentiment patriotique et cette certitude que la victoire est à portée de fusil.
Reportage Boris Loumagne et Vladimir Poutine risquent-ils aussi, avec cette nouvelle mobilisation, de se mettre à dos une partie de la population russe qui redoute d'être envoyée au front ? Bonsoir Julie Pietri.
Et bonsoir.
Cette annonce a en tout cas été violemment critiquée par l'opposant incarcéré Alexei Navalny aujourd'hui dans une vidéo.
Oui, cette mobilisation partielle conduira à une énorme tragédie et à une énorme quantité de morts. C'est ce qu'a osé dire Alexei Navalny ce matin lors d'une audience en prison.
La guerre d'agression criminelle de Poutine s'aggrave. Pour prolonger son pouvoir personnel, il jette encore plus de Russes dans le broyeur à viande qu'est cette guerre.
Ce soir, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes russes, Moscou, Saint-Pétersbourg, beaucoup d'arrestations aussi, des centaines. Et les proches d'Alexei Navalny se disent prêts à soutenir les contestataires, notamment juridiquement. Ivan Zdanov est l'un des principaux alliés de Navalny.
Si vous voulez éviter d'être mobilisé, c'est bien. Nous sommes prêts à vous apporter une assistance informationnelle et juridique. Si vous êtes prêt à faire de grandes choses, y compris mettre le feu au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, nous soutenons cela et sommes également prêts à apporter une aide.
Ce matin, le chef du Parlement russe a, lui, appelé les députés à montrer l'exemple en se portant volontaire pour aller au front.
Julie Pietri avec Denis Kataïev. Et puis les mots « quitter la Russie » ce matin étaient sans fois plus recherchées que d'habitude sur les moteurs de recherche. Et puis les femmes iraniennes qui crient leur colère ces derniers jours après la mort de la jeune Mahsa Amini ont aussi été entendues jusqu'à New York aujourd'hui à l'ONU. Joe Biden a salué le courage de ceux et celles qui manifestent depuis plusieurs jours pour dénoncer l'arrestation de la jeune femme par la police des mœurs pour une tenue jugée inappropriée. Des femmes jettent leur voile au feu, des manifestations qui ont déjà fait au moins 6 morts et un soutien qui s'exprime de plus en plus à l'extérieur des frontières, en Turquie aujourd'hui et en France. Un rassemblement à Paris où Nathanaël Charbonnier s'est rendu.
Ils ne sont qu'une poignée, mais qu'importe. L'important pour les manifestants est de rappeler à chaque fois que cela est possible que le régime iranien est une dictature misogyne qui opprime son peuple, mais surtout les femmes, comme l'explique Engame, c'est son nom, qui veut dire révolution en iranien.
Vous savez, il est mort par un régime misogyne qui est contre les femmes qui sont belles, contre toutes les choses qui viennent de femmes. Vous savez, c'est comme un symbole. Toutes les femmes maintenant qui sont dans la rue, ils se sont dit, nous sommes, c'est Mahsa, c'est comme Mahsa.
Mahsa Amini, une femme devenue symbole pour une partie de la jeunesse iranienne, une femme devenue symbole pour les femmes dans le pays qui ne veulent plus de voile, mais un symbole fragile qui ne sera pas forcément capable de renverser le régime des mollahs, comme l'explique Hamid du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran.
Combien de temps ça va durer ? Ça dépend évidemment de beaucoup d'éléments, notamment la poursuite ou l'arrêt de la politique de complaisance qui est menée malheureusement par certains gouvernements en Occident, en Europe notamment, à l'égard du régime des mollahs. Moins de complaisance, évidemment, ça va dire plus vite le régime va tomber. Plus de complaisance, ça va nous rendre la tâche un peu plus difficile.
Une manifestation parisienne qui devrait être suivie par d'autres. Un nouveau rassemblement est d'ores et déjà annoncé au même endroit demain en fin de matinée.
Reportage Nathanaël Charbonnier. L'autorité de sûreté nucléaire fait état ce soir d'un départ de feu dans un atelier de l'usine Framatome à Romans-sur-Isère. Un atelier contenant de l'uranium. Une intervention serait en cours. Le feu serait maîtrisé selon l'ASN, mais cela reste encore à confirmer. On suivait ce procès aujourd'hui à Paris, celui d'un chirurgien accusé d'avoir mis en vente aux enchères la radiographie de l'une une de ses patientes rescapées du Bataclan. Elle avait reçu une balle de Kalachnikov dans le bras, visible sur l'image. Le chirurgien Emmanuel Masmejean, qui exerçait à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, a été suspendu depuis par la PHP, jugé aujourd'hui pour divulgation illégale de données à caractère personnel, violation du secret professionnel. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Il a tenté de s'expliquer.
Oui, j'ai fait une connerie, une maladresse, reconnaît le chirurgien. En costume cravate à la barre, il lance des regards à son ancienne patiente, une jeune femme qui a dû retourner voir sa psychiatre quand cette radio a ressurgi 6 ans après les attentats. Ce n'est pas juste une image pour moi, c'est un moment extrêmement douloureux, c'est du voyeurisme, s'agace-t-elle. Le chirurgien, lui, explique que son fils venait de créer un site pour vendre des images numériques, des NFT, et que c'est donc ensemble qu'ils ont eu l'idée d'y publier le cliché. C'était une expérimentation, la première image médicale avec cette technologie. J'ai pensé au Bataclan parce que c'est historique et qu'une balle de Kalachnikov, ça parle. Le tribunal lui fait remarquer le prix affiché sur le site, près de 3 000 $. Je n'ai jamais pensé à la vendre, se défend le prévenu. Pour lui, on ne pouvait pas reconnaître la jeune femme, même si la légende précisait qu'elle avait perdu son compagnon ce soir-là. J'ai commis une faute morale, mais pas professionnelle, martèle le chirurgien.
L'audience a été suspendue, elle reprendra la semaine prochaine. Un rappel massif de lait Candia partout en France aujourd'hui. Les lots de Candia Baby Junior 4, 20-36 mois, commercialisés dans de nombreux supermarchés. C'est, semble-t-il, l'étanchéité des bouteilles qui pose problème. Mais où sont passés les étudiants en pharmacie? Plus de 1000 places restent vacantes cette année dans les universités. Ça inquiète beaucoup les professionnels sur les risques de désertification du territoire si personne ne prenait le relais. Comment expliquer cette pénurie? Réponse de Romain Galran de l'Association nationale des étudiants de pharmacie de France.
C'est beaucoup dû à la réforme d'entrée aux études de santé. Cette réforme est très mal appliquée. Et aussi, il y a totalement un manque de visibilité vis-à-vis du métier de pharmacien, qui se résume souvent aux vendeurs de boîtes de médicaments et non pas à tout ce qui concerne le conseil, toutes les nouvelles missions qui lui ont été confiées, notamment pendant la crise Covid, et aussi toutes les autres filières de santé autres que l'officine, avec tout ce qui est industrie, notamment avec la recherche, le développement, le marketing, et aussi tout le milieu hospitalier par la biologie clinique et la pharmacie clinique. Là, on est dans le cas où dans 5-6 ans, il y aura une pénurie. Et si ça continue comme ça, il y aura carrément limite une disparition du métier de pharmacien. Parce que là, on est déjà une pénurie humaine au niveau du métier qui est aux alentours de 10 000 à 15 000 postes non pourvus. Donc si on augmente chaque année le nombre de places vacantes, là on pourra la perte du métier de pharmacien quand même.
Romain Galran avec Anne Orenstein. La pilule du lendemain gratuite et sans ordonnance pour toutes les femmes qui en ont besoin, annonce du ministre ce matin que vous retrouvez sur franceinter.fr. Consommer moins ou autrement, jusqu'où aller? Est-ce que ça peut changer la donne? Vous avez dit sobriété, c'est notre journée spéciale sur France Inter qui pose le débat et les enjeux. Et avec vous, Sandy Donfin, bonsoir.
Bonsoir.
On s'interroge ce soir sur l'une des industries les plus polluantes, la mode. Rien qu'en France, chaque année, 2,8 milliards de vêtements sont mis sur le marché. La fabrication pollue, la surconsommation aussi. Hein. Est-ce que la sobriété, ce ne serait pas d'abord d'acheter moins?
Eh bien, écoutez, les Français achètent en moyenne 35 vêtements par an. C'est 2 fois plus que dans les années 90. Une industrie énergivore, très gourmande en matières premières, en produits chimiques, en eau. Fabriquer un t-shirt, c'est l'équivalent de 70 douches pour un jean. C'est 285. La sobriété, c'est donc de consommer moins de vêtements, mais mieux.
Les marques de vêtements affirment pourtant qu'elles se sont verdies.
Oui, elles sentent le vent tourner, mais il y a beaucoup de greenwashing, dénonce le collectif En Mode Climat. Ce collectif regroupe environ 500 marques et fabricants français qui prônent une industrie textile plus durable, plus sobre. Sa porte-parole, Marie Nguyen, elle est cofondatrice du site de vente en ligne de vêtements plus responsables, WeDressFair.
Il y en a qui font les choses bien, effectivement. Il y en a aujourd'hui qui existent et qui font les choses très bien. La problématique, ce que les marques, elles nous proposent, c'est de continuer à consommer exactement de la même façon, de continuer à acheter toujours et toujours autant. Mais on nous dit, le fait que ce soit avec des matières plus éco-friendly, il n'y a pas de problème. Et c'est là où, en fait, ce message, il n'est pas vrai. Il y a un réel problème aujourd'hui. Il faut que les matières premières, il faut que les process de fabrication soient plus verts, mais il faut drastiquement réduire le volume de vêtements qui est produit.
Ce collectif En Mode Climat demande plus de règlements réglementation pour lutter contre le dumping social dans l'industrie textile. Des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde avec des normes sociales et environnementales beaucoup moins exigeantes qu'en Europe.
Sandy Dauphin, et quand une crise impose la sobriété, c'est aussi ce qui s'est passé au Japon après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Les autorités ont demandé aux Japonais de réduire leur consommation d'électricité. Efficace, mais ça n'a pas duré. C'est le reportage de Karine Nishimura.
11 mars 2011, séisme, tsunami et accident nucléaire. Réacteurs atomiques et centrales thermiques stoppées. Entre coupures programmées et économie d'électricité, Setsuden en japonais, les Nippons privilégient la seconde option. Extinction d'enseignes, grands écrans, vitrines et appareils en veille, passage aux éclairages LED, achat de climatiseurs et réfrigérateurs plus économes. L'objectif fixé, une réduction de 15% de la consommation en journée, est largement rempli par les entreprises, presque atteint par les particuliers. Katsuya Okada était alors numéro 2 du parti au pouvoir. 11 ans après, il regrette que cette politique n'ait pas duré avec les gouvernements suivants.
Les économies d'électricité doivent être poursuivies avec la compréhension des citoyens. On peut aussi réduire la demande structurellement en encourageant l'investissement dans des équipements économes.
Certes, au fil des ans, les Japonais ont recouvré leur confort de vie, mais aussi renoué avec les gaspilles. Après 6 ans sans campagne, Setsuden, le mot est de retour cette année. En cause, le non-redémarrage de réacteurs nucléaires et l'arrêt de plusieurs centrales thermiques après un séisme en mars. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Vous avez dit sobriété, notre journée spéciale continue juste après ce journal avec le téléphone sonne et sur franceinter.fr. Évidemment, crise énergétique accentuée par la guerre en Ukraine, l'ombre d'une guerre que l'on ressent aussi parfois dans le sport, en basket notamment aujourd'hui. Le meneur de jeu de l'équipe de France, Thomas Hurtel, tout juste médaillé d'argent à l'Euro, décide de signer dans un club russe, le Zénith Saint-Pétersbourg, au risque de se fermer la porte des Bleus à 2 ans des Jeux Olympiques, Guillaume Batin.
Sur le site du club russe, Thomas Hurtel pose les bras croisés avec le maillot bleu du Zénith, le champion de Russie en titre, le sponsor principal Gazprom, bien visible. L'ancien meneur de jeu de l'Asvel, de Barcelone, de Pau Orthez, a signé un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Le montant du transfert est resté secret. Avant de jouer l'Euro en Allemagne au début du mois, il avait pourtant signé sur l'honneur, comme ses coéquipiers, une charte dans laquelle il s'engage à ne pas rejoindre un club russe ou biélorusse, sous peine de mettre un trait sur son avenir en équipe de France, tant qu'il y a la guerre en Ukraine. Thomas Hurtel sera donc privé de la prochaine Coupe du Monde dans un an en Indonésie, au Japon et aux Philippines, mais aussi des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Les Jeux Olympiques dans 2 ans à Paris, dont on sait désormais qui va orchestrer la cérémonie d'ouverture. Et c'est dans votre domaine. Bonsoir Stéphane Capon.
Bonsoir Hélène.
Puisqu'il s'agit du metteur en scène Thomas Joly, connu pour ses adaptations de Shakespeare notamment.
Oui, et les JO, ça lui va comme un gant car il aime les défis. Il a 40 ans, il dirige depuis 2020 le Centre Dramatique National du Quai à Angers. C'est un metteur en scène touche à tout. Il finalise actuellement la mise en scène de la nouvelle version de la comédie musicale Starmania. Il aime le théâtre classique mais aussi les grands spectacles. Ça a été le premier metteur en scène à avoir introduit dans ses mises en scène des systèmes d'éclairage jusqu'ici réservés aux concerts pop-rock. Il l'a fait au théâtre, mais aussi à l'opéra. Il s'est fait connaître grâce à sa trilogie autour d'Henri VI, de Shakespeare. 18 heures de spectacle présentées en 2014 au Festival d'Avignon. Le comité olympique l'a choisi parmi 70 profils, dont des cinéastes. Et il va devoir, pour sa nouvelle mission, s'entourer d'une équipe de scénographes, de chorégraphes, de costumiers, car la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas dans un stade, mais sur les quais de la Seine à Paris, sur 6 km de long.
Merci beaucoup Stéphane Capron. Et avant de retrouver Fabienne Sintès, on fait un point sur le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Avec vous Sébastien Léas, bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir.
Encore
à tous.
Du soleil pour demain.
Oui, journée largement ensoleillée au programme. Alors localement, quelques grisailles matinales retarderont l'arrivée du soleil. Les brumes et les brouillards s'effaceront rapidement. En revanche, les nuages bas présents sur le pourtour méditerranéen seront plus lents à se morceler. Quelques pluies se feront même remarquer. Les températures minimales seront en baisse. Quelques gelées matinales sont même possibles localement sur le quart nord-est alors qu'il fera 18 degrés au lever du jour à Nice. Alsace. Et puis les maximales, elles seront en hausse l'après-midi. Elles seront d'ailleurs assez homogènes, variant entre 19 et 26 degrés. Prévoyez 21 degrés à Paris, Reims et à Caen, 23 degrés pour Rennes, Grenoble et Clermont-Ferrand, 24 degrés à Perpignan, à Toulon et à La Rochelle et 26 degrés pour Calvi.
Ouais, ça risque de changer en fin de semaine.
Oui, demain après-midi, le soleil va progressivement se voiler en Bretagne et en Normandie. Ces nuages élevés nous annoncent l'arrivée d'une perturbation qui donnera un peu de pluie sur le nord-ouest vendredi. Et puis à l'avant de cette perturbation, des remontées instables et orageuses vont aborder le bassin aquitain et l'Occitanie en fin de journée, vendredi et durant la soirée. Ces averses et ces orages vont ensuite balayer les régions méditerranéennes samedi avant que la Tramontane et le Mistral ne se lèvent à nouveau. Des débordements concerneront aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Les averses orageuses traîneront plus tardivement sur la Corse, voire la Côte d'Azur jusqu'à dimanche. Localement, les cumuls pourront être importants.
Merci beaucoup Sébastien Léas.